Vous entendez les cloches de notre quartier.
Où sont les cloches?
Mais il faut approcher le micro de la fenêtre.
Non, c'est ça.
Approchez le micro de la fenêtre.
Les voix de la libération.
Au milieu de la marée, de l'enthousiasme national.
Octobre 1943. Discours du général de Gaulle, non pas à Paris, mais à Ajaccio.
Le chemin est encore long, difficile, jusqu'au but que nous devons atteindre. Il nous faut aujourd'hui tirer rapidement la leçon de la grande page d'histoire de bien décrire la force française. Ce premier morceau libéré de la France, les patriotes de Corse auraient bien pu attendre tranquillement la victoire des autres. Régla heureusement leur destin, mais ils n'ont pas voulu cela. Ils croyaient que la libération ne serait même pas digne de son nom. Ils ne trouvaient pas moyen que le sang de l'ennemi coulât sur la terre de leurs mains.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La libération du territoire français, c'est une affaire de longue haleine qui ne se terminera que par l'entrée et le maintien, fin 44, à Strasbourg. La libération, elle a commencé dès octobre 1943 en Corse. Le général de Gaulle y a posé déjà les questions qui seront celles de 44. Quelle part respective pour les alliés et les Français? Et parmi les Français, quelle part pour les communistes? Et quelle part pour les autres? Venu d'Alger et Ajaccio, le chef de la France combattante a tenu place du Diamant en octobre 43. Un discours, le même qui sera le sien, place de l'Hôtel de Ville à Paris, quitte à malmener quelque peu la vérité, il martèle que les Français sont les auteurs de leur libération. Donc la première voix que nous vous avons fait entendre, c'est la sienne, dans ce moment oublié d'Ajaccio, un discours restauré spécialement à notre demande par Lina. Vont suivre d'autres documents rarement entendus. Il faut savoir que dans les archives audiovisuelles comme dans les autres, la facilité est de reproduire toujours les mêmes. Ce sera notre contribution modeste à la collecte qu'organise le nouveau musée de la Libération. Ouvert à Denfert-Rochereau le 25 août, il regroupe les collections des musées Jean Moulin et Général Leclerc que Christine Lévis-Touzet avait enrichi de nombreux témoignages qu'elle avait elle-même sollicités. Le musée lance d'ailleurs un appel à donner des objets, des films, des enregistrements lors d'une journée spécialement dédiée ce 28 septembre. Tous à vos greniers. Notre premier document, déniché par Franck Olivard, date de 1954. Les anciens du comité parisien de libération avaient commandé à Claude Roy et à Francis Crémieux un spectacle Place de la République qui commençait par cette évocation du Paris à l'atmosphère raréfiée du début de 44.
En ce temps-là, le boulanger qui est au coin de la rue n'avait pas de pain à son étalage, ni le marchand de vin sur son comptoir. Le peuple de Paris ne flânait pas sur les places. Il était à la peine. Les drapeaux au soleil n'étaient pas tricolores, mais lugubrement gammés. En ce temps-là, les moineaux sur les toits avaient le jabot vide, les enfants le cœur gros. Et Paris avait faim. Ce qui nous semble aujourd'hui aller de soi était absolument impossible. Ainsi, aujourd'hui, sur les quais de la gare Montparnasse, les haut-parleurs rassemblent les familles qui s'en vont en vacances.
Messieurs les voyageurs à destination de Saint-Malo, Dinard, Saint-Brieuc, Plouer, Paimpol, en voiture s'il vous plaît.
Ça vous semble évident. En ce temps-là, pourtant, les quais des gares françaises résonnaient d'un autre langage.
À la foule, Rouen, Thiers, Saint-Valery-en-Caux, Achtung, Abfahrt!
Avec l'ouverture du front de Normandie, la multiplication des sabotages, les trains circulent de moins en moins. Il en partira cependant encore un de la capitale le 31 juillet, chargé de déportés juifs. Des structures parallèles de pouvoir sont déjà mises en place. Alexandre Parodi a été nommé ministre délégué du gouvernement provisoire d'Alger pour les zones non encore libérées. Georges Bidault, successeur de Jean Moulin, anime le comité national de la résistance depuis Paris. Un comité parisien de libération y a été constitué, avec les différentes tendances de la résistance, parmi lesquelles les communistes sont nombreux. Madeleine Riffaud, jusqu'aujourd'hui, a été un témoin très souvent sollicité. Militante communiste de 19 ans au début de l'été, elle a su d'emblée raconter. En plus de son remarquable tempérament, elle était dotée d'un vrai talent de correspondant de guerre, métier qu'elle exercera longtemps. Madeleine Riffaud, 1950.
Il me semble que c'est le 14 juillet 1944 que l'insurrection a commencé. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que ce jour-là, vraiment, nous avons sorti nos armes au grand jour devant le peuple de Paris, en plein après-midi, où nous avions eu l'ordre de protéger les manifestations du peuple de Paris pacifique à l'occasion du 14 juillet. Et nous étions là, Ménilmontant, et les armes aux côtés, prêts à nous fondre dans la foule, enfin prêts à les protéger, mais déjà presque libres. Enfin, c'était l'impression que nous avions. Et là aussi, ça sert une anecdote un peu drôle. Nous devions faire démarrer ces gens. Enfin, nous étions là à nous regarder les uns les autres, à nous dire qu'il faut que quelqu'un fasse quelque chose, qu'il crie, qu'il sorte un drapeau, qui chante la Marseillaise. Puis tous, nous chantions très faux. Puis quand on est ému, on chante encore plus faux. Alors un de mes camarades, Baudouin, a eu l'idée, en voyant un brave aveugle, un mendiant, qui avait un accordéon, a eu l'idée de lui donner 100 balles pour qu'il joue la Marseillaise. Et ce brave homme a joué la Marseillaise, sans voir du tout d'ailleurs ce qui se passait autour de lui, puisqu'il n'y voyait pas, il était aveugle. Et cette Marseillaise, jouée par un accordéoniste de Belleville, a déclenché une manifestation extraordinaire, puisque si elle a groupé 60 000 personnes environ dans Paris, sur Belleville, Ménilmontant, il y a eu 20 000 personnes dans la rue ce jour-là.
À dire le vrai, il faut tenir au vrai quand même, quand on parle de la libération de Paris, ce 14 juillet n'ont été émis que des signaux assez faibles de résistance. Au début du mois d'août, le président du conseil de Vichy, Pierre Laval, croit encore pouvoir organiser un arrangement qui pourrait faire passer les clés de l'État d'un cacique de la Troisième République, Édouard Herriot, à un nouveau venu qui ne serait pas le général de Gaulle. Opération sans lendemain. Le 17, les Allemands embarquent Laval dans un camion, direction l'Est du pays puis l'Allemagne. Les autorités municipales, nommées par Vichy, de Paris et de la banlieue, vont s'écrouler dans la foulée. Reste face à face les quelques 17 000 soldats du nouveau commandant du Gross Paris que vient de choisir Hitler, Scholtitz, et les premiers insurgés. Et ceux-ci sont, surprise, les policiers. Les cheminots se sont mis en grève le 10, puis les employés des transports et quantité de fonctionnaires. Mais le 15 août, l'entrée des policiers dans le mouvement est déterminante. Vichy s'était appuyé sur les gendarmes mobiles, les gardes ex-républicains, les gardiens de la paix. Les uns et les autres avaient été aux avant-postes pour servir le régime. Et maintenant, voici que, galvanisés par quelques leaders, ils changent de bord. Il n'y a bientôt plus d'électricité dans la journée, ni donc de radio, plus de journaux, de moins en moins de métro, le ravitaillement va manquer, seul le téléphone fonctionne. Le 19, le comité parisien de libération tente une première mobilisation.
Le jour tant attendu est arrivé. Les Alliés ont pénétré dans l'Île-de-France. Paris se trouve dans la zone de combat. L'heure a sonné de sauter à la gorge de l'ennemi. C'est Paris, libéré par les Français, par les Parisiens eux-mêmes, qui doit accueillir les Alliés.
Nous étions deux au coin de la rue de Vanves.
Nous étions trois au rendez-vous place de la République.
Nous étions cinq un soir chez l'imprimeur de la rue de Charonne.
Nous étions dix dans l'appartement de Jean.
Nous fûmes des centaines. Nous sommes des milliers.
Extrait du spectacle commémoratif de 54 déjà cité. À dire le vrai, il faut parfois dire le vrai, le rapport de force n'est pas exactement celui-là. Le général von Scholtitz, il aurait pu obéir à Hitler, qui lui ordonnait une stratégie de destruction de la capitale. Heureusement, il avait perdu la foi dans le Reich et il craignait ce qu'il adviendrait de son nom après un massacre. Néanmoins, ça ne signifiait pas qu'il allait rester les bras ballants. En face, les policiers assimilés étaient quelques 20 000, mais l'entrée en grève ne signifiait pas l'entrée de tous dans la lutte armée. Elle avait cependant permis la prise de la préfecture de police, puis non loin de l'hôtel de ville. Les FFI, les combattants qui obéissaient à la mobilisation du comité de libération, furent peut-être 20 000, eux aussi. Venus en vélo du sud de la capitale, son uniforme de colonel sur le porte-bagages, Roltangui prend leur tête, mais il est bien incapable de fournir une arme à chacun. Les cocktails Molotov seront bien utiles, on a appris leur fabrication pendant la guerre d'Espagne et on dispose des bouteilles de la cave de la préfecture de police. Roltangui est déterminé à étendre le combat. D'autres, parmi les dirigeants de la résistance, sont enclins à faire vite une pause, dans l'espoir de faire survenir les armées alliées qui, venues de Normandie, comptaient seulement prendre en tenaille Paris sans la libérer de suite. Le dimanche 20 août, sans qu'on puisse parler de trêve respectée de part et d'autre, les affrontements baissent d'intensité. Le lundi 21, les premiers journaux de la nouvelle génération paraissent. Et à la radio d'État, Pierre Schaeffer et Jean Guignebert font reprendre les programmes à 22h31 sur onde moyenne et sur onde courte. La pause a permis d'informer plus précisément le commandant en chef des Alliés de la situation à Paris. Eisenhower décide de laisser la deuxième DB du général Leclerc foncer sur la capitale. Les Alliés ne vont pas se tenir l'arme au pied loin de l'insurrection. Ils ne se comportent pas comme l'armée rouge le même mois d'août qui laisse 9 semaines les insurgés de Varsovie sans secours. Roltangui pense donc que le risque peut être pris d'étendre le mouvement. Il se sert pour cela de la radio. Roll et Schaeffer deviennent pour l'occasion assez complices et ils reconstitueront après coup la scène qui se serait déroulée entre eux le 22. C'est Roll qui donne les ordres et Schaeffer n'est pas peu fier de jouer l'exécutant docile.
Mardi 16h, rue Froidevaux, au quartier général des transmissions FFI.
Vous allez diffuser ça. Permettez-moi, colonel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un appel à l'insurrection générale. Vous savez que jusqu'à présent, il nous a été interdit d'orchestrer l'insurrection à la radio. Alors, mon colonel, est-ce que c'est indiscret de vous demander quel est l'objectif exact au point de vue militaire de l'insurrection?
Alors nous sommes les deux, les dés étant jetés, je puis bien vous fixer notre plan. L'insurrection générale, mettant les Allemands dans un climat d'hostilité totale, accélérera leur désarroi, déjà très visible. Par les barricades vieux moyens, nous entendons supprimer les communications entre leurs îlots de résistance, le Majestic, le Meurice, l'école militaire, Luxembourg, etc. Interdire aussi leur raid dans Paris, par camions armés, et dont vous avez été les témoins, les victimes, victoires, voitures, blindés et chars.
C'est le rôle exact des barricades.
Enfin, si démesuré que ça paraisse, nous voulons nous-mêmes libérer Paris. Cela vaut bien un risque, et notamment le vôtre.
Ne doutez pas, mon colonel, de la participation. Je crois que ces explications sont précieuses.
Quels sont les moyens matériels dont vous disposez?
Nous avons 4 ou 5 émetteurs de fortune disséminés dans Paris, dans sa banlieue immédiate. Différentes puissances, 50, 500 watts, même 1 kilowatt en coup.
Vos camarades des transmissions FFI vont eux-mêmes passer l'appel à l'insurrection sur un camion émetteur accompagné d'un détachement armé.
Nos émetteurs sont fixes et sans protection. En temps ordinaire, ils seraient repérés dans la demi-heure. Est-ce qu'il vous serait possible de nous donner un élément de protection, ou tout au moins des armes?
Qu'est-ce qu'il faut?
Je ne peux vous dire de chiffres, ce serait ridicule. Mais normalement, il faudrait une centaine d'hommes.
Comment voulez-vous que je vous donne des hommes? Je ne vais tout de même pas les prendre à la préfecture ou à la barricade du Pont-Saint-Michel. D'ailleurs, j'envoie ici des hommes.
Si vous aviez quelques mitraillettes.
Tâchera de vous en fournir. Maintenant, écoutez, Schaeffer. Je vous ai donné l'ordre, le plan. Nous avons examiné quelques détails. Si les détails ne suivent pas, tant pis, il faut y aller.
Entendez, mon colonel.
Quelques instants plus tard, l'ordre confirmé par Jean Guignebert dès 21h, la radio de la nation française change de ton.
le comité d'action militaire du Conseil national de la résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adresse à la population parisienne l'appel que voici. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tous au combat.
Nous vous rappelons que nous émettons sur les longueurs d'onde suivantes. En moyenne, 206, 224, 235, 10, 386, 60 et sur onde courte, 41 mètres et 31 mètres, 19. Ici, radiodiffusion de la nation française.
Nous nous adressons actuellement aux Parisiens. Nous sommes nous pour être écoutés des seuls Parisiens des quartiers La Muette et Italie. Nous les prions donc de téléphoner à leurs amis pour qu'ils puissent prendre l'écoute à d'autres moments où d'autres quartiers auront la lumière. Qu'ils téléphonent à leurs amis du quartier de l'école militaire du Laos de Plaisance qu'à 22h30, vers 22h30, ils auront vraisemblablement le courant et pourront nous écouter de 22h30 à 23h. Qu'ils téléphonent aussi à leurs amis de Doménil, de Charonne, de Commières, de Ménilmontant, de Saint-Augustin, de la République, que de 23h à 23h30, ils auront le courant qu'ils prennent notre écoute. Qu'ils téléphonent à leurs amis de Sévigné, de Voltaire, de Sébastopol, un peu vite. Sévigné, les quartiers Sévigné, Voltaire, Sébastopol, Temple, Vendôme, Pasquier, La Trinité, Augier, Trudaine, Batignolles, Magenta, Aboukir. Leurs amis de ces quartiers auront le courant de 23h30 à 24h. Alors qu'ils leur rappellent à tous qu'ils cherchent notre émission à ces heures-là, sur les longueurs d'onde suivantes, rappelez-les rapidement.
206, 224, 235, 10, 386, 60, ceci pour les ondes moyennes, et pour les ondes courtes, 31 mètres 19 et 41 mètres.
Si nous vous répétons si souvent nos longueurs d'onde, ce n'est pas pour vous qui entendez, c'est que vous avez déjà trouvé notre poste, c'est pour que vous les transmettiez à vos amis par tous les moyens, par téléphone, allez sur votre palier, réveillez votre voisin, annoncez-lui la grande nouvelle, criez de porte en porte, de fenêtre en fenêtre, que les rues de Paris hurlent de joie. Et si vous n'avez pas de poste, si vous avez des amis qui n'ont pas de poste, qui ne sont pas près de chez vous et qui ont le téléphone, dites-leur de faire INF1.
Est-ce qu'on peut sans danger mettre les drapeaux?
Comment? Ben, je pense bien qu'on peut mettre les drapeaux.
Je pense bien. Les Allemands tirent dans les fenêtres quand on met les drapeaux.
Oui, mais maintenant...
Au début de l'après-midi, ils le faisaient.
Il faudrait que demain matin soit une matinée triomphale, une aube tricolore, si je peux m'exprimer.
Mais ça, je pense que nous n'avons même pas besoin de leur commander aux Parisiens.
Oui, spontanément.
Et que les drapeaux sont prêts et qu'ils sont déjà sortis.
Oui.
Il y en a déjà depuis 5 jours.
Oui.
Bien sûr, on met les drapeaux et on entend le canon aussi. Ouvrons nos fenêtres. On entend le canon.
Très
bonne idée. Allumez toutes les lumières. Ouvrez les volets.
Les cloches.
Nous entendons les cloches de notre quartier.
Attendez, faisons le silence.
Je vais amener le micro.
Non, ça ne passera pas au micro.
C'est pas encore les cloches de notre quartier.
Si.
Vous êtes sûr?
Non, même si ce sont les cloches de notre quartier, c'est beaucoup trop loin pour que ça passe au micro.
Laisse-moi approcher le micro de la fenêtre.
Approchons le micro de la fenêtre.
Mais si ça passe au micro, parce que les techniques du reportage en direct, nées dès avant la guerre, sont maintenant au point.
Nous nous sommes rendus dans ces quartiers qui cernent la place de la République, où les Allemands ont eux aussi élevé des barricades, et d'où ils tirent sur les patriotes français. Nous sommes tout près de la place de la République, dans une toute petite rue, dans une petite rue qui donne sur un grand boulevard, et nous apercevons devant nous une barricade de sacs de sable. Tout autour de nous, des éléments des forces françaises de l'intérieur, armés, repèrent une fenêtre d'où on ne sait qui tire sur eux. Vous êtes là depuis combien de temps?
Voulez-vous m'expliquer depuis une demi-heure?
Non, mais vous êtes du secteur, vous êtes du secteur. Vous habitez
oui.
le quartier.
J'habite le quartier, monsieur, oui.
C'est un camarade des forces françaises de l'intérieur à qui nous allons poser quelques questions et à qui surtout nous allons demander de nous exposer la situation dans ce secteur.
C'est ça, monsieur, oui.
Les Allemands sont bien sur la place de la République,
oui,
sur toute la place.
À proximité, c'est-à-dire à 150 mètres environ.
D'ici.
D'ici, oui.
Et ils ont élevé eux aussi des barricades tout autour.
Des barricades, oui, et on y a reçu un coup de canon. Et ils tirent dessus, évidemment.
Voici un camarade qui passe avec un fusil mitrailleur, un revolver et une grenade. Je pense qu'il va faire une opération vers le petit hôtel d'où on croit qu'un élément ennemi tire. Car depuis quelques instants, nous entendons des coups de revolver qui passent. On nous signale... C'est une alerte ?
C'est une alerte, oui.
Bon, alors si vous voulez, rentrons un petit peu sous la porte cochère. C'est pas la peine de rester en plein milieu de la rue et de risquer inutilement. Puisque tout autour du micro de la radio de la Nation française se sont groupés un certain nombre de camarades, brassards tricolores au bras, armes en main.
Non loin, dans le 19e, il n'y a pas de radio, mais Madeleine Riffaut, qui fête ce 23 août ses 20 ans avec panache.
Nous cantonnions à la poste du 19e, à côté de la mairie. C'était ça, le cantonnement de la compagnie Saint-Just. C'était une vieille compagnie FTP, enfin vieille. Le plus âgé avait 30 ans et le plus jeune avait 17 ans. Il ne les avait pas tout à fait, d'ailleurs.
Voulez-vous nous les décrire, ces jeunes? Comment étaient-ils?
Ben, vous savez, ils ressemblaient étrangement à cette armée en bleu de travail qui avait pris Paris à ce moment-là, qui était habillée mais vraiment en bleu de travail. Vous savez, c'est une excellente tenue pour se battre, le bleu de chauffe. Et ou alors en blouson, des blousons pas noirs, des vieux blousons. Il n'y a pas beaucoup de tickets textiles, vous savez. Puis on avait des shorts, enfin des vagues shorts, puis des chemises d'hommes dessus, comme ça. Puis des sandales, on était tous très mal chaussés, très mal habillés. Mais très contents.
Et tous ces jeunes vivaient en marge de leur famille?
Non, pas du tout. Leur famille savait qu'ils étaient là. D'ailleurs, c'était des enfants d'ouvriers, presque tous ceux avec qui j'étais. Et leur famille, le plus souvent, participait très très vivement à l'insurrection, enfin, dans d'autres coins, ou participait sous une autre forme. Enfin, la femme, parfois, faisait des liaisons ou nous donnait à manger, tout simplement.
Je crois qu'il faut souligner qu'on ne se battait pas toute la journée, on rentrait à la maison, on mangeait, on dormait.
Ça dépendait dans quels endroits, ça dépendait l'état militaire où se trouvait le quartier, ça dépendait des quartiers de Paris. Dans le nôtre, nos combattants ne rentraient pas, nous nous couchions même pas, nous déshabillions pas, nous dormions sur les sacs des barricades, tant tous les uns, tant tous les autres. On a dévalisé les pharmaciens, on leur a fauché toute l'orthédrine qu'ils avaient dans les caisses.
Il fallait tenir.
Et oui, et on a été dopés à fond pendant 8 jours. On n'a pratiquement pas dormi pendant 8 jours.
Qu'est-ce que vous mangiez?
Ben, on mangeait pas trop mal parce que les gens nous aimaient. Et dans chaque maison était notre maison. Enfin, à chaque table, nous avions une place à table. Et les gens se privaient, ils avaient peu à manger. Mais s'il y avait un morceau de pain, ils étaient pour ce qu'ils appelaient leur fifi. Parce que vous savez, on avait des brassards et fifi, force française de l'intérieur. Et les gens, surtout les quartiers populaires, ne nous appelaient pas les FFI, ils nous appelaient les fifi.
À l'hôtel de ville, 23 août toujours, Georges Bidault, lui aussi, guette. Il guette l'arrivée des alliés, il va utiliser le langage qui sera celui du général de Gaulle, 2 jours après.
Vous écoutez une déclaration de Monsieur Georges Bidault, président du Conseil national de la Résistance.
Français, Paris s'est libéré, et s'est libéré lui-même. Contre un ennemi en retraite et déjà en déroute. Mais encore puissamment armé. Les Parisiens, à l'exemple de tous les combattants, qui, de la montagne à la forêt, ont délivré déjà de vastes parties du territoire national, se sont dressés dans un élan qui égale et qui dépasse, par l'union, par la ferveur, par l'héroïsme, celui des plus grands jours du passé. La France se retrouve plus grande au travers de l'épreuve. Elle connaît aujourd'hui ceux de ses fils sur lesquels elle peut compter, qui sont le nombre, qui sont l'élite, qui sont la nation. Elle connaît aussi le pouvoir de l'union et du courage. Bientôt, les Alliés seront à Paris.
Oui, mais en attendant, ça tire dans tous les coins et Georges Bidault annonce comme sûr ce qui n'est encore qu'un espoir. Cependant, dans l'après-midi du 24, un groupe issu de la 2e DB, composé pour une bonne part d'Arméniens et surtout de républicains espagnols, commandé par Drone, parvient, après la porte d'Orléans, à se faufiler jusqu'à l'hôtel de ville. Bidault qui l'accueille, voit-il l'inscription que porte le véhicule de Drone, mort au con. Il donne la connade au capitaine, remarque que sa barbe pique. Il est vrai que Drone ne rêve que d'un bain avec ses hommes. Il ne va dormir que d'un œil au pied de l'hôtel de ville dans la nuit du 24 au 25, parce que tout n'est pas plié. D'âpres combats se déroulent encore, même dans la matinée du lendemain. Les derniers secteurs d'affrontement, l'école militaire, le Sénat, la place Saint-Michel, les Tuileries, bien sûr, à proximité du Meurice où se tient von Scholtis qui va finir par capituler, et aussi la place de l'Étoile.
Ici, sur la place de l'Étoile, à l'entrée d'une des avenues, gisent 5 cadavres allemands, 5 Boches qui sont morts. Ils se sont suicidés eux-mêmes avec une grenade pour ne pas être faits prisonniers. Il y a, derrière moi, dans une autre avenue, l'hôtel Majestic, où se trouvait un état-major ou un club allemand, je ne sais pas trop, qui est rempli d'officiers, de soldats allemands blêmes, qui ont peur, qui craignent d'être tués.
Des automitrailleuses françaises passent sur la place, les gens l'entourent, serrent les mains des gars qui sont dedans. Dans le véhicule, il y a des infirmières qui sont montées avec eux. C'est vraiment une atmosphère qui défie la description. On ne sait pas quoi dire. On est ému, on est bouleversé, comme le sont d'ailleurs tous les Parisiens. La place bouge, les gens vont d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de manifestation organisée, mais c'est une manifestation de joie et de bonheur profond, profond. Écoutez.
Ceci, c'est un enregistrement amateur depuis une fenêtre en face du Sacré-Cœur dans le 18e arrondissement. Va retentir une Marseillaise qu'on entend au loin. C'est un son, je le répète, amateur qu'on a retrouvé dans la collection Repiquet. Une collection faite d'objets, de sons collectés au moment de la libération. Alors, je disais tous à vos greniers, l'entrée au musée de la Libération, qui vient d'ouvrir sous une nouvelle forme à Denfert Rochereau, est gratuite. Et on peut apporter le 28 septembre tous objets, films, enregistrements. C'est une grande opération de collecte qu'on ne peut que vous recommander. Cette émission a été préparée, je l'ai dit, par Franck Olivard. On peut retrouver sur notre site et sur la page qui l'anime un lieu, une histoire, une documentation beaucoup plus riche sur le musée de Denfert Rochereau, le musée Moulin Leclerc, que des noms de héros. Franck Olivard a préparé cette émission, Frédéric Martin, Linka Negulesco, l'équipe de la Marche de l'Histoire avec Audrey Ripouille et aujourd'hui à la technique Gilles Gaillard. Et dans un instant, autre anniversaire, mais terriblement français, la fiction dans l'émission de Fabrice Drouel est consacrée à René Goscinny.